Bonjour à toutes et à tous. Alors, le mois dernier, j'avais déjà commencé à vous parler des ex-voto. Et j'avais commencé, bien sûr, par les ex-voto de marbre que vous voyez ici. Vous êtes entourés d'ex-voto, il y en a partout. Et ce mois-ci, je vais continuer avec d'autres ex-voto qui sont moins visibles. Il y en a qui ne sont même pas du tout visibles, qui sont conservés aux archives. Donc, parmi les objets divers et variés, les plus nombreux sont les cœurs. On en a recensé plus de 19 000. Alors, vous pouvez en voir ici. Il y en a là, il y en a là. Et les autres sont conservés précieusement. Il y a eu un cœur à fleur de lys offert à la Sainte Vierge et portant gravée cette inscription « Hommage à Marie, Société de la Jeunesse Royaliste, le 6 juillet 1883 ». Alors ce cœur a été donné après la messe dite pour obtenir la guérison du comte de Chambord. Alors je précise, le comte de Chambord, c'était le prétendant légitimiste à la couronne de France et c'était le dernier le petit-fils du dernier roi de France, Charles X. Un cœur en vermeil avec sa chaîne pour mettre à la clé du tabernacle. Alors, je ne sais pas, il y est peut-être toujours, je ne peux pas vous dire. Un cœur en bronze doré, offert à Notre-Dame des Victoires par la Congrégation des jeunes filles de Notre-Dame de la Victoire, fondée en 1658 à Montréal. Un cœur en argent doré, renfermant cette inscription « Marie, venez à mon aide et à mon secours ». Un cœur renfermant un petit cœur en or veut exaucer vocation sacerdotale à Béroussel. Alors, je ne sais pas si c'est le même à Béroussel, je n'ai pas de précision, qui, peut-être le savez-vous, a fondé la belle mission des orphelins affrontis d'Auteuil. Et le père Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, était son directeur spirituel. Un cœur d'argent doré avec cordes dorées en métal, offert par les religieuses de Saint-Vincent de Paul de Naples. Un cœur déposé par le cardinal Zacchi, qui était nonce apostolique à Paris. Un cœur gros modèle, offert par Monseigneur de la Flèche, évêque des Trois-Rivières au Canada. Un cœur en argent offert à la Sainte Vierge par les religieuses du Bon Pasteur et béni par le pape Léon XIII en 1886. Un cœur offert par Madame Rimsky-Korsakov. Je pense que c'était la femme du compositeur russe du même nom. Deux cœurs offerts à Notre-Dame des Victoires par le prince de la Tour d'Auvergne, Lauragais. Alors, il y a des cœurs qui ont été offerts à la Sainte Vierge, mais aussi à Saint-Joseph, Sainte-Anne et Saint-Antoine. Un cœur offert à la Sainte Vierge par le prince de Monaco en 1911. Un cœur offert à Notre-Dame des Victoires par Madame Jeanne de Noé en reconnaissance d'avoir échappé à la catastrophe du bazar de la Charité en 1897. Ça a été une vraie catastrophe. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Les carmélites du Pater de Jésus de Jérusalem offrirent en 1894 un tableau représentant Jésus au Jardin des Oliviers, fait avec des feuilles et des fleurs naturelles prises au Jardin des Oliviers. Alors, parmi les divers objets, il y a des chapelets, des bagues, des bracelets, des broches, des garnitures d'autel et des plumets de Saint-Cyrien. Un vieux serviteur de Notre-Dame des Victoires offrit à l'occasion de ses noces d'or un calice en vermeil chargé de 9 émaux représentant les 9 mystères de la vie de la Sainte Vierge, le Sacré-Cœur, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Lourdes, et enrichi de 3 diamants et 3 saphirs. La couronne de mariée de la princesse de Bourbon avec des vases en porcelaine du Japon. Une gravure encadrée représentant Notre-Dame des Victoires. Une épingle en émeraude offerte par la marquise de Roussy de Sales pour être mise en bague à la statue de l'enfant Jésus. Elle n'y est plus, parce qu'autrefois, il y avait des ornements et à la statue de la Vierge et à la statue de l'enfant. Il y avait des chapelets qui leur étaient passés autour du cou, mais tout ceci a été enlevé depuis très longtemps. Une garniture d'autel au crochet offerte par Madame d'Astier de la Vigerie. Alors, il y a des objets assez insolites. Ça m'a beaucoup amusée quand j'ai consulté les registres. Par exemple, un revolver, bah oui, remis à Monsieur le curé avec une note ainsi libellée. Veuillez, s'il vous plaît, accepter cette arme. C'est une grâce obtenue qui délivrera sûrement un des membres de ma famille d'un malheur. Bon. Une défense d'éléphant. Des lunettes d'automobile en 1911. 2 petites béquilles en argent offertes par la comtesse de Paris en 1893 avec ces mots « Une mère reconnaissante ». Un petit navire offert par Pierre Roussel, élève de l'école navale de Brest. Un sabre de cavalerie offert par M. Alexandre de Nicole, lieutenant-colonel d'artillerie. Oui. Les militaires, pour eux, c'était évident d'offrir des médailles, des armes, voilà. 2 épaulettes de général de division offertes par le général de la Pommeraye. Une écharpe de conseiller municipal de Paris. Un scapulaire brodé venant du Mexique. Alors, il y a des objets là, plus religieux, on va dire. Une veilleuse pour le Saint-Sacrement en bronze doré. Un bracelet en or et brillant offert par la baronne Haussmann pour une guérison. C'était la femme du baron Haussmann qui, comme vous le savez, je suppose, a transformé Paris sous le Second Empire. Une épée d'honneur donnée par Charles X à Monsieur Blotas, architecte de la couronne. Une épée offerte à la Sainte Vierge ayant appartenu à Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam, c'est le fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul et il fut élève à l'école polytechnique. En action de grâce et demande de guérison, diamants et pierres précieuses offerts pour la couronne de la Sainte Vierge. À propos des couronnes, je vous le redis parce que les couronnes que vous voyez là, ce ne sont pas les couronnes d'origine. Les couronnes d'origine qui avaient été offertes par le pape Pie IX ont été volées durant la commune lorsque l'église a été pillée. Un cornet à piston. Un anneau d'or ayant appartenu à Monseigneur de Ségur. Une écharpe et 3 volantes dentelles ayant appartenu à la duchesse d'Orléans. Des galons de sergent reçus des mains du comte de Chambord en 1830 à l'école militaire, offerts par Monsieur de Flavigny. Une insigne de Rose-Croix offerte en action de grâce pour une conversion. Dans la rubrique Croix et médailles, les dons sont très nombreux et sont liés à l'histoire de France et du monde. Alors je vais commencer par les croix. Une croix en or, entre guillemets, on croit qu'elle renferme une parcelle de la vraie croix, mais ce n'est pas une certitude. Une croix ayant appartenu à Monseigneur de Quélen, offerte par sa petite nièce après une guérison. Monseigneur de Quélen était l'archevêque de Paris lorsque l'abbé Desgenettes a consacré sa paroisse au cœur immaculé de Marie et a fondé l'archiconfrérie. Une croix de Saint-Louis ayant appartenu à un membre du Conseil des 500. Conseil des 500, on remonte le temps, c'est à la fin de la Révolution, c'est la période du Directoire. une croix de commandeur du Sauveur de Grèce donnée par le roi Georges en 1862 au directeur des constructions navales de Toulouse, une croix de commandeur de l'ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare donnée par le roi d'Italie Victor Emmanuel de Savoie, une croix et une plaque de commandeur de l'ordre de François Ier des Deux Siciles donnée par le roi François II de Naples en 1860. Il avait certainement besoin de prières car il avait été chassé de son royaume et enfermé à Gaète. Une croix et plaque de grand officier de la couronne de chêne donnée par le roi Guillaume III de Hollande en 1868. Une croix de commandeur et une plaque de grand officier de l'ordre de Charles III d'Espagne. Une croix de commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique. Une croix de l'ordre du Christ du Brésil en reconnaissance d'une conversion obtenue après 35 ans de prière. Ceci nous encourage à persévérer dans la prière et à ne jamais se décourager. Une croix de Turquie, du temps de la guerre de Crimée, c'était sous le Second Empire. Une croix de Joseph, roi de Naples, et une croix de Joachim, roi de Naples. Alors Joseph, c'était le frère de Napoléon, et Joachim, c'était le beau-frère de Napoléon. Une croix de Saint Stanislas de Russie, une croix de l'Ordre d'Espagne, une croix de Pie IX, offerte par M. Orville, commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand et chevalier de l'Ordre de Pie IX. Une croix du Saint-Sépulcre, une croix de Notre-Dame de Guadalupe, deux croix de chevalier de la Légion d'honneur, offertes par Mme Jeanne de Gaulle, veuve d'Achille d'Ardivillers. Et de nombreuses, évidemment, croix de la Légion d'honneur. Il y en a qui sont là, les médailles, dans les vitrines que vous voyez là. Il y en a ici. Alors, pour terminer, il y a eu des médailles, et il y en a eu beaucoup. Et ces médailles, elles viennent d'un peu partout. Une médaille de Saint Thomas d'Aquin, une médaille de Sainte-Hélène. Bon, ça, c'est lié à Napoléon. Une médaille de Pie IX, une médaille du Tonkin, une médaille militaire de Crimée, des médailles du Tonkin, Sénégal et Afrique orientale, offertes par le lieutenant de la Vigerie. Une décoration chinoise donnée par l'empereur de Chine en 1906 à un prêtre missionnaire, M. l'abbé Edmond Girard. Une médaille de la guerre de 1870. Et puis je voudrais terminer, un petit peu en lien avec les ex-voto quand même, puisque les ex-voto, ce sont des merci pour des guérisons, mais aussi merci pour des conversions. Je terminerai par le message de Notre-Dame des Victoires. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la prière à Notre-Dame des Victoires est particulièrement recueillie. Nous l'avons tous ressentie un jour ou l'autre en avançant sous les voûtes tapissées d'ex-voto. On peut s'interroger sur ce phénomène surnaturel. Comme ailleurs, l'extraordinaire ici n'est pas le plus intéressant. Non, le plus intéressant, c'est le mystère. Le mystère de Notre-Dame des Victoires est le mystère du salut, le mystère de la conversion. Ce lieu saint est le refuge des pécheurs. S'il est vrai qu'une prière est agréable à Dieu dans la mesure où elle est humble, comme elle a du prix la prière de ceux qui se relèvent sous le pardon de Dieu. C'est la prière du publicain qui descend du temple pleinement justifié parce qu'il avait été vrai devant Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Le silence à Notre-Dame des Victoires, c'est le silence de l'humilité, des aveux libérateurs. Cette prière est authentique par définition, puisqu'elle est la prière des pécheurs. C'est le silence de la joie du pardon reçu. et c'est enfin la joie de Dieu, la joie débordante du Père qui a retrouvé son enfant. Mais il n'y a pas à Notre-Dame des Victoires que des pécheurs qui se convertissent. Il y a aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, les justes, qui ont appris à longueur de vie qu'il faut se convertir et se reconvertir chaque jour. La dévotion à Notre-Dame des Victoires est donc essentiellement une dévotion à la volonté du Père. La Vierge Marie n'a pas eu d'autre désir que celui-là, s'offrir tout entière au Seigneur. Son cœur pur a pour mission de prier pour la sanctification des hommes. À Notre-Dame des Victoires, nous prions avec la Vierge Marie pour tous les pécheurs. Il en résulte que pour les membres de l'archiconfrérie, la vie doit être une incessante conversion personnelle qui doit précéder toutes les conversions qu'ils demandent. C'est la victoire de Notre-Dame de nous avoir obtenu le salut en Jésus-Christ dans l'humilité. On n'est pas chrétien pour soi-même, mais pour les pécheurs que nous devons aimer comme Dieu les aime.